Bois, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'architecte le plus célèbre du XXe siècle, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier.
Le Corbusier a connu de grands rivaux, mais aucun n'a signifié avec une telle force la révolution de l'architecture, parce qu'aucun n'a été si longtemps, si patiemment insulté.
Ans d'histoire. Le 1er septembre 1965, dans la cour carrée du Louvre, André Malraux rendait hommage à l'homme qui a sans doute le plus profondément marqué l'architecture du XXe siècle. Rappelant, on vient de l'entendre, qu'il fut aussi le plus insulté, le ministre de la Culture ajoutait « Le Corbusier a changé l'architecture et l'architecte. C'est pourquoi il fut l'un des premiers inspirateurs de son temps. Depuis sa première maison en 1905 jusqu'à sa mort en 1965, pendant 60 ans, Le Corbusier a construit des villas de luxe aussi bien que des logements sociaux, des usines aussi bien que des églises, et même le centre d'une ville nouvelle, Chandigarh, la capitale du Pendjab, construite au pied de l'Himalaya. Mais c'était toujours avec le même rêve de mettre le béton au service de l'homme. Il le disait lui-même en inaugurant la plus célèbre de ses constructions, la cité radieuse de Marseille, le 14 octobre 1952.
J'ai l'honneur, j'ai la joie, j'ai la fierté de vous remettre l'unité d'habitation de grandeur conforme. Première manifestation au monde d'une forme de l'habitat moderne. L'œuvre est là, faite pour des hommes, faite à l'échelle humaine. Faites aussi dans la robustesse des techniques modernes et manifestant la splendeur nouvelle du béton brut. Faites enfin pour mettre les ressources sensationnelles de l'époque au service du foyer, cette cellule fondamentale de la société.
Pascal Marchetti-Leca, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargé d'enseignement à l'Université de Corse et auteur d'un article sur Le Corbusier qui vient de paraître dans la revue Historia du mois d'octobre. Le Corbusier que l'on vient d'entendre inaugurer sa cité radieuse de Marseille en 1952. Et parlons, on vient de l'entendre, de la splendeur du béton brut. Alors voilà des mots qu'on n'oserait plus prononcer aujourd'hui, alors que le béton symbolise pour certains tout ce que l'architecture peut faire de plus laid. Pour Le Corbusier, au contraire, c'était un matériau noble.
Oui, à moins de vouloir finir absolument lapidé, et évidemment, Le Corbusier va à contre-courant des canons esthétiques actuels. Il faut dire que Le Corbusier a tout de même fait ses armes au gré de voyages d'études sur lesquels nous reviendrons peut-être, et qu'il a notamment visité, durant sa période de formation, l'atelier, le cabinet des frères Perret, qui étaient les maîtres du béton armé.
Et c'est ceux qui ont construit, je crois, le premier immeuble en béton à Paris en 1905, je crois.
Absolument, absolument. Ouais. Et donc, Le Corbusier va trouver dans ce matériau un appui, c'est le cas de le dire, qui va conforter le projet qui est le sien d'adosser à la fois en un projet individu la rigueur morale la rigueur des lignes architecturales bien sûr et l'ordre moral qui est le sien.
Alors ce qui est étonnant quand on vous lit Pascal Marchetti-Leca, c'est que pour Le Corbusier au fond l'architecture c'est une passion évidemment mais c'est une passion un peu tardive qu'il a découverte un peu par hasard. Il voulait être peintre en fait.
Il y est entré de façon c'est son maître le plateau qui l'a amené à l'architecture et qui lui a annoncé qu'il fallait absolument bifurquer. Ouais. Mais c'est souvent une constante. Il m'a été donné de travailler sur Cartier-Bresson qui voulait absolument qu'il ne se disait pas lui photographe mais qui se disait dessinateur. Ouais. Et Le Corbusier, sa grande idée, c'était de devenir justement peintre. Et ce qu'il n'a jamais cessé de faire.
Oui, il a des peintures magnifiques. Hein, il a produit jusqu'à la fin de sa vie.
Oui. Et son grand complexe peut-être est d'avoir, ne pas avoir su hisser le peintre à la hauteur des audaces de l'architecte. Néanmoins, la peinture a toujours fait office de laboratoire secret pour son architecture.
Alors l'architecture, il disait, j'avais horreur de l'architecture et des architectes, il devient quand même donc architecte, grâce à son professeur justement à l'école d'art de La Chaux-de-Fonds, hein, dans le Jura, c'est là où il est né, où il s'appelait encore Charles-Édouard Jeanneret, hein, jusqu'en 1920, et puis alors il réalise, mais très tôt je crois, c'est à 17 ans, il réalise au fond sa première maison en 1905, c'est la villa Fallet. Hein. Oui. Mais pendant très longtemps, il va construire uniquement des villas et uniquement en Suisse, dans le Jura suisse, là où il est né.
C'est un coup d'esbrouf au départ. Il est élève à l'école de La Chaux-de-Fonds, bien sûr, et il apprend que M. Fallet a décidé de se faire construire une villa. Et il se pointe devant lui et lui dit, voilà, je suis élève dans cette école et je veux dessiner votre maison. Oui. Alors, on est légèrement circonspect. Et puis finalement, c'est cette construction qui va décider de tout un avenir, dans la mesure où on lui fait confiance, il cède à un certain régionalisme dans l'inspiration de la villa Fallet, et les émoluments qu'il recueille de ce travail, il va les employer dans la plus pure tradition humaniste du 19e siècle, dirons-nous, à un voyage d'humanité au pluriel. Oui.
Et là, il découvre les villas de Toscane, les mosquées d'Istanbul, voilà. le Parthénon, ah, l'Acropole, hein, qui l'a beaucoup impressionné. Il disait une machine à émouvoir. Oui. Alors, pendant 10 ans, il ne construit donc que des villas à La Chaux-de-Fonds, donc dans sa ville natale. Et puis, il introduit, vous l'avez dit, le béton dans chacune de ses constructions, et également un système de fabrication d'éléments de construction qui s'appelle domino. Ça veut dire quoi, domino?
Domino, c'est un néologisme qui est dérivé de deux termes. Le premier, dom, de domus latin, maison, et inno, innovation. Donc, il s'agit tout simplement... ce système-là a été inauguré à la suite des dégâts qu'a pu occasionner la guerre de 14, dont Le Corbusier a pu vérifier les tristes effets. Donc, il s'agit de créer des unités d'habitation avec trois dalles, des piliers, et la structure complètement indépendante, de façon à ce que les habitants, les occupants, les propriétaires puissent terminer eux-mêmes leur maison.
C'est un peu du préfabriqué, non ?
C'est l'ancêtre du préfabriqué.
En Suisse, évidemment, ses ambitions sont un peu restreintes. Il fabrique que des villas. C'est la raison pour laquelle, en 1917, en pleine guerre, il arrive en France. Il va prendre le nom de Le Corbusier. Mmh. Qui était le nom d'ailleurs d'un de ses
ancêtres. Il s'agit en fait, je reviens un instant sur Le Corbusier, sur le projet domino, c'est surtout de réconcilier l'idée d'immeuble, de cadre privatif et d'espace collectif avec le libre arbitre de chacun, et puisque Le Corbusier ne peut se satisfaire du seul statut de coqueluche de la bourgeoisie locale suisse, donc il a absolument besoin de prendre de la distance, de prendre son envol, et Paris s'avère la capitale indiquée, puisque c'est celle où il y a une effervescence qui est propre à développer, à éperonner son génie. Et il prend en 1920 le pseudonyme de Le Corbusier, qui est dérivé de Le Corbésier, qui était le nom d'un ancêtre maternel de Jeanneret.
Alors à Paris, non seulement il vient pour y habiter, pour y demeurer l'essentiel du restant de sa vie, mais également pour transformer, avec un projet de transformation de Paris, comme d'ailleurs il le fait pour beaucoup de grandes villes, hein. Paris d'ailleurs dont il a toujours critiquer la croissance anarchique et les banlieues. Écoutez justement Le Corbusier en 1958.
Et mon dernier dessin, pour vous montrer la ville tentaculaire, avec ses ceintures, avec ses horreurs, et son impasse atroce. Prenez l'hélicoptère, vous verrez la banlieue parisienne, vous verrez l'abomination, le désordre effroyable de ces choses-là, et là-dessus, 5 millions d'habitants, n'est-ce pas? Je vous rapporterai un mot que j'ai eu une fois avec un de mes bons amis, qui occupe une place très haute. Je lui ai dit un jour, écoute mon vieux, qui est-ce qui va donner l'ordre de la démolition des banlieues de Paris? Il m'a dit, dis pas d'idiotie. Et je lui ai dit, bon, moi je te dis que la chose ne peut plus durer et qu'il faudra donner l'ordre de démolir les banlieues de Paris.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Le Corbusier, cette chanson de Maxime Le Forestier, un arbre dans la ville. Alors, on a entendu tout à l'heure Pascal Marchetti-Lecard, on a entendu Le Corbusier pester contre la banlieue parisienne qu'il fallait, disait-il, détruire. C'était pas seulement un constructeur de maisons, un architecte de maisons, c'était un urbaniste, il imaginait des villes et pas seulement des maisons d'habitation.
Oui, il s'agissait pour lui de concilier justement le cadre privatif intérieur et façade compris, bien sûr, mais l'espace collectif, de réorganiser l'espace collectif. Et à ce titre-là, il n'a pas eu que des amis, comme on l'a entendu.
Ah bah, écoutez, son plan, vous évoquez un plan de construction, de reconstruction de Paris, le plan voisin, déposé en 1922. Alors, il fallait concentrer la population dans les centres-villes pour éviter l'extension des banlieues, et dans d'immenses tours,
cruciformes,
c'était assez terrifiant, mais pour ça, il fallait détruire tout le centre de Paris, carrément, le Marais, les archives, le Temple.
Il dit notamment, si vous me permettez de le citer, « Je rêve de voir la place de la Concorde vide, solitaire, silencieuse, et les Champs-Élysées une promenade. Les quartiers du Marais, des archives, du Temple seraient détruits, mais les églises anciennes sauvegardées au milieu des verdures. »
Heureusement que ça n'a pas été adopté. Hein. Alors, il était aussi, il s'intéressait à tout ce qui se faisait ailleurs, et c'est lui, je crois, qui est à l'origine d'une réunion internationale d'architectes qu'on appelait les SIAM, hein, Congrès Internationaux d'Architecture Moderne. Et alors, il y en a un en 1933 qui est très important, parce que ce fond, c'est la charte qu'a appliquée Le Corbusier jusqu'à la fin de sa vie, ce qu'on appelait la charte d'Athènes.
La charte d'Athènes, oui. Il a présidé avec le mécène Hélène de Mandreau à la création des SIAM dès 1928 et celui de SIAM, donc le congrès de 1933, le congrès international d'architecture moderne, donc, fait figure des plus importants dans la mesure où c'est de lui qu'est issue la charte d'Athènes.
Ah oui, avec des principes qu'il a appliqués toute sa vie, je vais vous le citer dans votre article sur Le Corbusier, dans Historia, Pascal Marchetti-Lecard. La charte recommande l'ensoleillement maximal des logements, l'omniprésence des espaces verts et la proximité des lieux de travail. Pour circuler, seront créées des voies spécialisées en fonction de la destination, des voies lentes pour les piétons, des voies rapides pour les automobiles, etc. Et vraiment, c'est un précurseur. À l'époque, il faut rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de voitures encore dans les grandes villes.
D'abord, c'est un plan qui est à relier à une esthétique beaucoup plus générale, qui est l'esthétique linéaire. Il n'aime pas les plans concentriques, comme il s'en est expliqué dans l'entretien que vous avez projeté, que vous avez diffusé. Et ensuite, les voies à différentes vitesses, adaptées à différentes vitesses pour les automobilistes, les voies pour les piétons. Enfin, ce sont autant d'innovations qui passent pour révolutionnaires et qui ne retiendront pas l'attention des pouvoirs locaux, sinon pour enflammer l'opinion à Paris d'ailleurs, pas plus qu'ailleurs. Hein.
Oui, parce qu'il a proposé, je crois, Alger également,
Oui, Anvers.
Buenos Aires,
Anvers.
Alors, il a quand même subi beaucoup d'échecs, qui l'ont éprouvé dans sa vie. Par exemple aussi, deux grands projets pour lesquels il est entré dans un concours. La Société des Nations à Genève, à l'ONU de l'entre-deux-guerres, on a repoussé son projet qui était magnifique d'ailleurs.
Oui. Deux projets qui l'ont... Le plus grand échec de Le Corbusier, c'est de ne pas avoir été un peintre à la hauteur de l'architecte. Et ensuite, il a quand même essuyé un certain nombre d'échecs dans la mesure où bon nombre de ses projets, tels le palais de la SDN à Genève en 27, le palais des Soviets à Moscou en 31, ont été littéralement blackboulés.
On l'a accusé aussi, vous citez le palais des Soviets à Moscou, on l'a accusé politiquement d'être très proche de l'extrême gauche. Or, j'apprends qu'il a également déposé des projets auprès de Mussolini, je crois.
Oui, mais alors, étrangement, l'œuvre de Le Corbusier a été taxée d'appartenances diverses et variées. On l'a accusé d'être à la solde des bolcheviks, mais aussi d'être un suppôt du Reich, de Mussolini. C'est-à-dire que dans dans la mesure où elle conciliait la rigueur hygiéniste qui est celle de son propre et relative à son éducation et son souci de pureté architecturale, il est évident qu'il donnait le flanc à un certain nombre de critiques pour le moins aisées, disons-le.
Alors qu'il n'y a eu aucun succès auprès de gouvernements de grands pays, sauf un. Alors ça a été l'œuvre, c'est plutôt à la fin de sa vie, mais ça a été la capitale d'un état de l'Union indienne, le Pendjab, Chandigarh. Là, c'était toute la ville qu'il se proposait de construire. C'était une ville nouvelle, d'ailleurs.
Carte blanche par Nehru pour édifier le Parlement, le palais de justice, le secrétariat, pour donner, si vous voulez, à la suite de la partition de l'Inde et du Pakistan, Nehru voulait donner un visage neuf à son pays, et c'est Le Corbusier qui avait en charge ce lifting, en fait. Mmh. Voilà. Et avec une concession très appuyée et délibérée à la modernité qu'incarnait bien sûr Le Corbusier, l'avant-garde Le Corbusier. Ouais.
Alors c'est en revanche les autorités françaises donc qui lui commandent une œuvre, un bâtiment qui sera sans doute l'œuvre la plus connue de Le Corbusier, la Cité radieuse de Marseille, inaugurée en 1952 en présence de Frédéric Potcher.
À Marseille, boulevard Michelet, se dresse la haute façade de l'immeuble Le Corbusier, de l'unité d'habitation Le Corbusier. Il s'agit ici d'un grand événement social. Cette construction a 135 mètres de longueur, 21 de large, 50 de haut. Elle comprend 17 étages, 337 appartements et une rue intérieure. Cet ensemble énorme est soutenu par 36 pilotis. Le Corbusier et son constructeur regardent cette maison avec amour.
Par mes théories de ville radieuse, j'entends restituer l'homme dans les conditions de nature, chose qui a été perdue totalement depuis longtemps. J'ai fait accepter en 33 au congrès d'Athènes, qui a établi la fameuse charte d'Athènes de l'urbanisme, ce propos que les matériaux de l'urbanisme étaient le soleil, l'espace, la verdure, le ciment et l'acier, dans cet ordre et dans cette hiérarchie, c'est réalisé ici.
Et c'était Le Corbusier le jour de l'inauguration de la Cité radieuse, avec toujours les mêmes idées, le soleil, l'espace, la verdure, le ciment et l'acier. Jamais, dites-vous, Pascal Marchetti-Lecas, jamais aucune construction n'a provoqué autant de polémiques. On appelait cette Cité radieuse, on appelait ça la maison du Fada, les Marseillais appelaient ça comme ça.
L'immeuble du Fada, oui. C'est sans doute pour cela que, définitivement atterré par les polémiques diverses et variées, et Le Corbusier, le jour de l'inauguration, ne l'amène pas là. Il est le doigt sur la couture du pantalon, il attend de voir, et c'est Eugène Claudius Petit, ministre de la Reconstruction d'alors, qui se fait le défenseur de son œuvre et qui n'hésite pas à pousser haut le compliment, la conception de l'immeuble en elle-même, dit-il, la conception du logement, l'équipement du logement, et j'allais presque dire jusqu'à la manière d'habiter. On a dit caverne, c'est beaucoup plus une chartreuse, on a dit promiscuité, jamais les enfants n'ont été autant séparés de leurs parents, on a dit obscurité, ces appartements sont baignés de lumière. Il insiste, et son insistance est inversement proportionnelle à la gêne de Le Corbusier.
Mais quand on voit cet immeuble, Pascal Marchetti-Lecas, il ressemble un peu, à une grande barre, ça va peut-être vous faire bondir. Est-ce que Le Corbusier peut dire qu'il s'agissait de replacer l'homme dans des conditions de nature? C'est quand même un immense immeuble qui n'a rien de particulièrement, enfin qui est éloigné de la nature.
Un immeuble, mais une ville en soi, avec des piscines, 320 logements, des avenues intérieures, des terrains de sport, des crèches, mais toujours ce souci de chez Le Corbusier qui préside à l'ensemble de ces constructions qui sont ainsi estampillées par son architecture en 5 points. Les pilotis, le plan libre, la fenêtre en longueur, la façade libre et j'oublie le toit jardin.
Voilà. Et puis une très grande importance accordée à ce qui est à l'intérieur de l'immeuble, c'est-à-dire aux appartements, parce qu'ils sont encore plus originaux, surtout à l'époque, que l'immeuble lui-même. Ces appartements étaient construits selon un système, dites-vous, qu'on appelait le modulor. C'était quoi le modulor?
Le modulor, c'est un système que Le Corbusier a mis au point pour battre en brèche, au fond, le système métrique qui, selon lui, n'était pas conforme, ou du moins si partiellement, aux règles de la construction. Alors que fait-il, Le Corbusier? Il réapprivoise tout cela en étudiant, en prenant pour étalon un homme d'1m83 qu'il envisage dans toutes les positions, et toutes ces études architecturales seront basées suivant les besoins de cet homme devant se mouvoir, évoluer donc et vivre dans un espace qu'il aura défini.
un peu le nombre d'or.
C'est le nombre d'or.
Une grille de mesure, au fond, appliquée à tous les éléments
de
la construction. Et notamment, donc, à ces appartements qui devaient recevoir la lumière le plus possible. L'orientation, d'ailleurs, de l'immeuble y était pour quelque chose. Il insistait aussi beaucoup sur tout ce qui pouvait faire l'habitation des gens. C'est-à-dire, par exemple, sur le mobilier. Vous dites que Le Corbusier, c'était aussi un des pionniers du design.
D'ailleurs, il réfute l'appellation même de mobilier, toujours dans son souci rigoriste et minimaliste. Ce n'est pas un hasard si on a intitulé l'artiste, en accord avec l'équipe rédactionnelle, minimaliste monumental. Il réfute jusqu'au terme de mobilier, il va à l'essentiel, il parle plus volontiers d'équipement du logis. Les tables sont faites pour manger, pour poser des affaires,
Il disait travailler. Les meubles, c'est des outils.
Voilà, ce sont des outils. Des outils uniquement qui sont adaptés à la vie et toujours dans cette souci d'épure. Voilà. Et on retrouve cette constante. Il pense en peinture notamment que l'école, le fauvisme bien sûr et le cubisme, n'en parlons pas, on fait leur temps. Et qu'est-ce qu'il lance? Il lance avec Amédée aux enfants le purisme. Et on retrouve cette rigueur dépouillée au sein de l'équipement du logis et donc du mobilier.
C'est curieux parce que j'ai vu justement quelques peintures de Le Corbusier qui sont très belles et qui ont eu toujours beaucoup moins de succès au fond que son architecture.
Ben oui, on est souvent. Ben ce serait presque dommage d'être plébiscité partout.
Alors ce qu'il a fait, donc, il s'intéressait à tous les arts aussi. Il prétendait dans son architecture faire la synthèse au fond de tous les arts, de tous les arts plastiques.
C'est le grand, et en cela il n'est pas très pionnier, on doit le dire. Les architectes de la Renaissance italienne disaient que de tous les arts, le plus complet, c'est l'architecture qui les englobe tous. Hein. Donc lui, sa grande idée, c'est la synthèse des arts. Ça, c'est, mais appliqué à l'architecture, une architecture qui, selon lui, se marche et se parcourt. Mais c'est pas un architecte de l'immobilisme. C'est un architecte qui évolue sa construction et l'évalue dans la mesure où elle est destinée à être fréquenté, arpenté, décidé pour être vécu.
Voilà. Et ça pour tous les types de construction. Bon, il a, on l'a dit, construit des logements, des bâtiments administratifs à Chandigarh, des musées aussi. Il faut savoir le musée de Tokyo, par exemple, plusieurs musées aux États-Unis. Il a peu construit aux États-Unis, mais le musée de Tokyo au Japon. Mais alors aussi, ce qui est assez surprenant, et ça c'est une des œuvres les plus célèbres du Corbusier, c'est des églises comme la chapelle Notre-Dame à Ronchamp.
À Ronchamp, Notre-Dame de Ronchamp, qui coiffe la trouée de Belfort dans les Vosges, qui vient en remplacement d'une église néo-gothique qui a été littéralement anéantie par les bombardements, et donc l'évêché a demandé à Le Corbusier de repenser cet édifice qui, dans sa dissymétrie, fait mieux éclater, j'allais dire, c'est un édifice au fond qui est tiraillé entre lignes et courbes pour mieux faciliter l'assaise et
donner tout à fait extraordinaire, voilà. Et en même temps révolutionnaire. Hein. C'est étonnant quand même de la part d'un homme qui était un agnostique et de formation d'éducation protestante, mais il croyait pas, c'était pas un croyant, Le Corbusier.
Je crois que au-delà de tous les dogmes, je crois que le seul dogme auquel Le Corbusier véritablement adhéré, c'est le sien. Ouais. je veux dire qu'il s'agisse de l'Église chrétienne, de l'Église catholique de façon générale ou de l'Église réformée, tout ce qui importe pour lui, c'est l'ascèse. N'oubliez pas que son grand rêve, c'est le lait chaud et le ripolin.
Oui, mais justement, alors lui qui a construit des bâtiments, Pascal Marchetti-Leca, des bâtiments monumentaux, il va terminer ses jours dans un petit cabaret de 3,60 m sur 3,60 m à Cap-Martin dans le Midi. C'est quand même très curieux. Quand on en voit la photo, c'est tout petit, c'est une toute petite cabane.
C'est une cabine téléphonique réduite à sa plus simple, une cabane de plage qui correspond avec forces astuces qui parvient à synthétiser l'ensemble des besoins du passant qu'il est. Et comme si on allait, c'est une marche ininterrompue plus vers le minimalisme, le Corbusier au fond, il passe de palais, comme on l'a indiqué, à sa cabane, et puis finalement, on se rendra compte que plus rien ne lui convient, parce que pour s'éteindre, aucun bâtiment ne lui sera satisfaisant.
Et c'est près de cette cabane qu'il va mourir, hein, en se noyant dans la Méditerranée le 27 août 1965, et cinq jours plus tard, donc Malraux lui rendait hommage dans un des plus beaux discours de Malraux, dans la cour sacrée du Louvre, la cour carrée du Louvre, pardon, le 1er septembre 65.
L'homme qui avait conçu des capitales est mort dans une cabane solitaire. Les baigneurs qui rapportèrent le corps du vieux nageur ignoraient qu'il s'appelât Le Corbusier. Mais peut-être eût-il été content de savoir que lorsqu'il le voyait chaque jour descendre vers la mer, il l'appelait l'Ancien. Corbusier, vous que j'ai vu si ému par l'hommage filial du Brésil, voici l'hommage du monde. Au Japon, le jour commence et les 6 chaînes de télévision projettent votre musée de Tokyo. L'aube pointe dans l'Inde où les passereaux de Chandigarh secouent leurs ailes sur vos monuments. Pendant que nos moineaux s'endorment sur l'église de Ronchamp. Adieu, mon vieux maître et mon vieil ami. Bonne nuit. Voici l'hommage des villes épiques. Voici l'eau sacrée du Gange et la terre de l'Acropole.
C'était Malraux, le 1er septembre 65, un hommage comme on jamais sans doute un architecte en a connu, Pascal Marquis-Tillecard. Il nous reste quelques secondes à peine, mais on sait qu'on y est bien habité pour des hommes politiques, pour des grands généraux, pour des grands écrivains comme Victor Hugo. Là, c'était un architecte. Hein? Pascal Marquis-Tillecard, vous entendez, oui?
Oui, absolument, absolument. Hein? C'est un hommage exceptionnel, il faut le dire, à la mesure de l'originalité du personnage qui s'impose comme l'architecte du siècle, sans doute.
Merci, Pascal Marquis-Tillecard. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un article consacré à Le Corbusier, paru dans le numéro d'octobre du magazine Historia. Et vous avez également écrit avec Jean d'Alban, Corse, dit-il, un livre de photographie de l'île de beauté, paru aux éditions du Miroir. C'était 2000 ans d'histoire, au duplex de Bastia, dans les locaux de Radio Corse, Frequenza Mora, que nous remercions pour leur hospitalité. Documentation et archivina, Virginie Bloclenet, Claire Tesser, Florence Buisset, Sandra Escamez, une réalisation de Anne Kobilac.